Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 et CNews en direct, bien sûr. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Vous êtes notre première invitée pour ce grand rendez-vous de rentrée. Je suis entourée de Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour Sonia.
Et pour cette année cruciale, c'est le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté qui rejoint l'équipe. Bonjour à vous, Mathieu.
Bonjour.
C'est donc la rentrée politique, la vôtre aussi, Valérie Pécresse, hier à Brive-la-Gaillarde. Une question domine après le forfait de Laurent Wauquiez, mais aussi de Bruno Retailleau. Quelle est véritablement l'intérêt d'une primaire de la droite? Xavier Bertrand, lui, continue dans son couloir. Votre duel s'intensifie. Éric Zemmour pourrait venir troubler la donne ou la fête. Mais vous gardez vos flèches acérées, d'abord et avant tout en direction d'Emmanuel Macron sur l'immigration, le terrorisme, l'international. Et justement, la première question concerne l'Afghanistan.
Valérie Pécresse, question première donc dans le contexte à Kaboul, dans son contexte chaotique, absolument chaotique. Les dernières évacuations ont eu lieu et il y a néanmoins beaucoup, énormément d'Afghans et plus particulièrement d'Afghanes qui veulent fuir, qui veulent quitter. Et manifestement, leur sort semble mauvais pour l'instant. Que fait-on avec elles? Que fait-on avec eux? On les abandonne tout simplement?
D'abord, ce qu'il faut dire et regretter, c'est la façon dont tout ça s'est passé. Ça fait des mois que nous étions nombreux à alerter le président de la République, le gouvernement et les ministres européens en leur disant, les chefs d'État européens, en leur disant que ce désengagement américain, nous devions nous en mêler. Nous devions nous en mêler parce qu'il fallait absolument prévenir le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, est venu en mars à Paris nous délivrer ce message et je l'avais transmis au président de la République. Et la France et l'Europe ont été totalement muettes, totalement absentes de ce processus. Alors les Américains, ils avaient le choix entre la guerre et le déshonneur. Mmh. Ils ont finalement choisi le déshonneur, mais ils vont avoir la guerre.
Vos mots sont forts, le déshonneur.
Mais oui, parce que, enfin, pardon, mais les Américains se sont engagés en Afghanistan au lendemain du 11 septembre parce que l'Afghanistan avait hébergé Al-Qaïda, parce que les talibans étaient des complices objectifs du terrorisme international. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ils ne sont même pas repartis que les terroristes islamistes frappent à nouveau dans Kaboul, endeuillent à nouveau l'Afghanistan, préparent un avenir très sombre pour les femmes afghanes.
Alors.
Donc aujourd'hui, le sujet, il est simple. La guerre contre l'islamisme, elle continue. Elle continue et elle doit nous mobiliser tous. Et ça doit devenir aussi une cause européenne.
Oui, le président l'a rappelé hier, mais que faites-vous pour reprendre la question de Mathieu Bock-Côté? Concrètement, est-ce que ceux qui restent sur place et qui sont menacés avec un risque terroriste, vous l'avez rappelé, est-ce qu'on les abandonne? Est-ce qu'on se résout à les abandonner?
D'abord, j'approuve la décision du président de la République, bien évidemment, de rapatrier tous les Afghans qui ont servi la France et tous les Afghans qui ont été des figures de proue de la défense des libertés en Afghanistan. Donc bien évidemment, il faut les rapatrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des demandes d'asile. Le sujet, il est clair. Nous ne pouvons pas accueillir. Michel Rocard disait toute la misère du monde, la phrase est rebattue, mais aujourd'hui, on le sait et on va en parler, le défi de la France, c'est d'arrêter l'immigration incontrôlée. Voilà. Donc, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Mais il faut évidemment que notre droit d'asile, qui est sacré, puisse s'exercer. Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose une profonde réforme de la procédure du droit d'asile en France et en Europe. Je propose qu'on généralise l'asile à la frontière. L'asile à la frontière, c'est quoi? C'est une demande obligatoire d'asile dans nos ambassades, donc soit à Kaboul, je retrouve l'idée onusienne intéressante de faire des zones de sûreté, une zone de sûreté dans Kaboul où puissent pénétrer des personnes qui se sentent persécutées sous contrôle onusien. Ce serait une très très belle
initiative. Mais comment vous organisez ça?
Malheureusement, ce que je redoute et ce que nous redoutons tous, c'est que la Chine et la Russie, une fois encore au Conseil de sécurité, mettent leur veto à cette initiative. Mais si on n'y arrive pas, de toutes les façons, vous l'avez vu, il y a d'ores et déjà beaucoup d'Afghans qui se sont réfugiés, soit en Iran, soit dans les pays.
Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup, Valérie Pécresse? Soyons précis. Est-ce que vous craignez, un choc migratoire? Certains même disent une bombe migratoire pour l'Europe ou la France. Est-ce que c'est un risque réel ou est-ce que c'est un risque aujourd'hui qui est fantasmé?
On a vu au moment de la guerre en Syrie, effectivement, une immigration de masse. Là, aujourd'hui, tout va vraiment dépendre de la conduite du gouvernement taliban. Mais je voudrais finir de répondre à Mathieu Bock-Côté. Donc l'asile généralisé à la frontière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans nos ambassades, dans les pays tiers, pour demander l'asile. Et cette demande d'asile, elle est instruite dans les pays tiers. Ou alors on la présente à la frontière, c'est-à-dire concrètement à l'aéroport de Roissy ou à la frontière française. Et on est placé dans des lieux dédiés où la demande d'asile est instruite en urgence par le ministère de l'Intérieur et l'OFPRA, et on crible les personnes qui demandent l'asile, parce que vous l'avez vu la semaine dernière, il peut y avoir des demandeurs d'asile qui sont des talibans infiltrés. Il peut y avoir des islamistes qui profitent de ces demandes d'asile pour infiltrer le pays. Donc il faut cribler ces demandes.
Vous pensez que ce n'est pas criblé? Vous pensez qu'à l'heure actuelle, le renseignement, notamment français, ne crible pas suffisamment toutes ces personnes?
Eh bien, on s'est aperçu la semaine dernière, avec l'arrivée à Noisy-le-Grand, d'un Afghan qui visiblement avait prêté main forte aux talibans, que ça n'était pas assez criblé. Je sais que nos services sont aujourd'hui à la tâche, mais évidemment, ce criblage, vous comprenez bien qu'il doit avoir lieu dans des centres dédiés. On ne peut pas permettre à ces demandeurs d'asile de s'installer en France, parce qu'après, quand ils seront déboutés, ce qui se passe aujourd'hui, ils ne rentreront pas. Donc, asile systématique à la frontière, installation dans des centres dédiés, et quand on est débouté, on rentre chez soi.
Mais il y a deux questions distinctes néanmoins, c'est-à-dire il y a la question de sécurité en tant que telle, c'est-à-dire ceux qui pourraient s'infiltrer d'une manière ou de l'autre, et ensuite il y a le choc migratoire évoqué par plusieurs. Redoutez-vous ce choc migratoire? Est-ce que vous craignez 2015 bis, non plus par la Syrie, mais par l'Afghanistan?
Ce que je crois, c'est qu'il faut travailler avec les pays de la zone, de la région, avec l'ONU, avec le Haut Conseil aux réfugiés, pour essayer d'organiser des camps d'accueil dans les pays autour. Et puis, il faut établir un rapport de force avec le gouvernement taliban. Un gouvernement à qui nous devons demander des garanties de
Madame
protection
Pécresse, vous dites
de sa
un
population.
Rapport de force. En ce moment, pardonnez-moi, mais alors que les évacuations ont pris fin, la réelle politique nous oblige à discuter avec les talibans pour les prochaines évacuations. C'est ça le rapport de force? C'est une réelle politique aussi, un pragmatisme que vous assumez? Il faut discuter avec les talibans, aussi rétrograde soit-il ce pouvoir.
Moi, je suis contre la reconnaissance du gouvernement taliban qui a pris le pouvoir par la force. Je suis pour un rapport de force avec lui, un rapport de force qui est un donnant-donnant, et d'obtenir des garanties et sur les libertés publiques, évidemment sur les droits des femmes, et aussi sur le respect des oppositions. Vous le savez, aujourd'hui, des opérations sont en train d'être menées au Panjshir pour justement éradiquer toute opposition.
Mais que c'est facile à dire dans un confort d'un studio de télévision
absolument,
et de radio.
Absolument, mais l'Europe doit cesser d'être le ventre mou du monde et affirmer sa puissance diplomatique, sa puissance antiterroriste.
Mais parler avec les talibans, c'est une chose, parce que c'est le pouvoir réel qu'il a, bon, c'est une chose, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose des formules un peu incantatoires dans cette idée qu'on va leur demander de respecter les droits des femmes, d'être inclusive, de respecter l'opposition, d'être finalement une lointaine province de l'Union européenne? Ce sont des mots, mais est-ce que ce sont des attentes réelles?
Mais bien sûr, c'est incantatoire à ce stade, le rapport de force, il existe. On peut aussi décider d'apporter un soutien politique, stratégique, militaire à l'opposition afghane.
Oui, mais on le fait, on va le faire. Mais avec le poids de la Russie et la Chine qui discutent, eux, déjà autour d'une table avec les talibans.
Eh bien, c'est là qu'on mesurera le poids d'une Europe qui parle d'une seule voix par rapport à d'autres grandes puissances. Nous avons aujourd'hui besoin d'une Europe qui s'affirme. Les États-Unis nous l'ont fait comprendre. Ils ne nous ont absolument pas associés à leur départ. Aujourd'hui, le sujet, il est simple. Soit l'Europe prend en main sa défense, prend en main la question de la lutte contre l'islamisme, qui doit tous nous rassembler, parce que c'est notre menace commune, soit elle devient, je l'ai dit, un ventre mou diplomatique, et à ce moment-là, effectivement, notre parole sera vaine et elle ne sera plus entendue.
D'accord. Valérie Pécresse, dans une tribune dans Valeurs Actuelles, vous écrivez que le nombre de clandestins dépasse aujourd'hui probablement 500 000 en France. J'aimerais vous demander d'abord d'où vous tenez ce chiffre, et puis, puisque vous dites qu'il est possible d'expulser les clandestins, comment vous faites et quel délai vous vous donnez pour en expulser 500 000 ?
Eh bien, ces chiffres, ils viennent tout simplement des résultats de l'aide médicale d'État. Mmh. Vous savez, l'aide médicale d'État, c'est cette aide qui est accordée, cette aide pour la santé des personnes en situation irrégulière, et qui est accordée aujourd'hui à des centaines de milliers de personnes sur notre sol. Mais j'ai d'autres chiffres. J'ai les chiffres aussi de la mesure demi-tarif dans les transports pour les clandestins, que je n'ai pas réussi à faire annuler par le Parlement. Le gouvernement a fait voter pour cette mesure, a voulu maintenir cette mesure, et j'ai aujourd'hui près de 150 000 personnes qui bénéficient en Île-de-France, dans la seule région, de demi-tarifs dans les transports, alors qu'ils sont en situation irrégulière.
Et comment est-ce qu'on reconduit à la frontière où on expulse 500 000 personnes? Dans quel délai est-ce que vous vous donnez pour le faire?
Écoutez, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des ordonnances de quitter le territoire français. Ça s'appelle des OQTF. Ce sont des décisions prises par le gouvernement français qui intiment à une personne étrangère de retourner chez elle. Donc il faut qu'on exécute les OQTF.
Attendez,
pour cela,
c'est très important,
pour cela,
Madame Pécresse, il faut... Mais comment vous faites quand il y a une décision de justice qui les annule? Beaucoup de ces obligations de quitter le territoire sont annulées par la justice. Est-ce que vous passez outre?
Passons sur celles qui sont annulées. Prenons déjà celles qui sont exécutoires, si vous le voulez bien. Un problème après l'autre. Ces OQTF qui sont exécutoires, ces ordonnances de quitter le territoire français qui sont exécutoires, qui n'ont pas été annulées, eh bien, il y a un dispositif européen mis en place par l'agence Frontex, qui consiste à prendre des avions. Et Frontex fournit les avions, fournit l'escorte et ramène les personnes dans leur pays d'origine. Pour cela, il faut une autorisation du pays qui reconnaît ses ressortissants.
Un laissez-passer consulaire.
C'est ça, un laissez-passer consulaire. Ces laissez-passer consulaires sont donnés par des États que, en général, la France et l'Europe aident puissamment, avec lesquels nous avons des relations diplomatiques. Donc, je demande que, à ces États, nous demandions de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière.
Vous le savez, Valérie Pécresse.
Les Allemands...
Ces États rechignent.
Les Allemands reconduisent trois fois plus de clandestins que nous. Donc, la réelle politique dont parlait M. Côté, ça existe. Ça veut dire, là encore, avoir une relation, j'allais dire, tenant-donnant avec les pays d'origine.
J'aimerais revenir sur la question, sur votre tribune de valeur, en fait, dans Valeurs actuelles. Alors, vous nous dites que je serai musclé, je serai très ferme sur la question de l'immigration clandestine, de l'immigration illégale. Bon, c'est une chose. L'autre volet de l'immigration, c'est-à-dire l'immigration légale, tout à fait autorisée dans le droit, il y a eu un portrait, je crois, c'est une étude de France Stratégie qui est sortie cette semaine, où on parle d'une véritable mutation démographique, un bouleversement démographique en France, qui s'accompagne, soit dit en passant, de conséquences politiques, identitaires, un sentiment de devenir étranger chez soi, un sentiment de devenir exilé en son propre pays pour plusieurs. Alors, vous êtes très ferme sur la question de l'immigration clandestine. Est-ce que vous entendez être aussi ferme pour, on dit quelquefois, maîtriser, mais véritablement encadrer, limiter l'immigration dite légale?
Alors, sur l'immigration clandestine, il y a encore plein d'autres dispositif.
On y reviendra.
J'ai souvent l'impression qu'on parle avec beaucoup de fermeté de l'immigration clandestine pour parler avec peu de fermeté de l'immigration légale.
Eh bien, vous avez tort. Parce que l'immigration légale et l'immigration clandestine se recoupent. Parce qu'un grand nombre de nos dispositifs, on parlait du droit d'asile, c'est de l'immigration légale. Sauf que ce dispositif, vous l'avez bien compris, est complètement dévoyé par des gens qui ne sont pas persécutés, qui viennent. En 2019, c'était 135 000 demandeurs d'asile qui sont déboutés parce qu'ils ne sont pas persécutés et qui ne sont pas renvoyés. Donc vous voyez bien que l'immigration légale, c'est aussi des dispositifs qui sont bafoués. Et moi, je pense que dans un pays fier de ses lois, nos lois doivent être respectées. Les mineurs isolés, les mineurs non accompagnés, c'est un dispositif de protection des enfants des rues, humanitaire. Ce dispositif est totalement dévoyé aujourd'hui par des mafias, par des réseaux.
Mais vous nous faites un diagnostic.
Non, ce n'est pas un diagnostic du tout. Ces mineurs isolés, j'étais à la frontière de Menton. Ils ont parfois une trentaine d'années et du poil blanc à leur barbe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les services sociaux demandent à les renvoyer. On peut faire des tests osseux. François Hollande a fait changer la loi. Aujourd'hui, un mineur isolé à qui le département des Alpes-Maritimes demande un test osseux, peut refuser ce test osseux. Et s'il refuse ce test osseux, il est considéré comme mineur. Et ça veut dire qu'en fait, toute personne qui se prétend mineure aujourd'hui en France peut rentrer en France et ne pas être expulsée. Je vous parle de ça parce que c'est important. Alors sur les dispositifs d'immigration légale, là aussi, il va falloir durcir un certain nombre de nos conditions. Il n'est plus question d'arriver en France et de ne pas parler le français.
Vous allez nous dire comment tout cela? Facile à dire. Comment, évidemment, aussi... Non, vous allez nous le dire dans quelques instants, la pause. Et puis, vous avez un discours très dur, Valérie Pécresse, à l'égard d'Emmanuel Macron, dans la lutte contre le terrorisme. C'est un sujet grave, sérieux. On va en parler. Restez avec nous. Une pause et on se retrouve pour votre premier grand rendez-vous de rentrée en direct sur Europe 1 et sur CNews.
Europe 1. 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté Sonia Mabrouk.
Et surtout, bien sûr, notre invitée en ce premier grand rendez-vous de rentrée, Valérie Pécresse. Vous proposez, Valérie Pécresse, une approche, on l'a vu, musclée contre l'immigration clandestine. Mais Mathieu Bock-Côté vous a interpellé sur l'immigration légale avec notamment cet article dans Causeur avec des chiffres étayés, des chiffres et des faits de France Stratégie faisant état d'une mutation démographique dans plusieurs zones en France. D'abord, est-ce que c'est une surprise et est-ce que c'est préoccupant ?
Ça n'est pas une surprise. J'ai écrit un livre il y a 2 ans dans lequel je citais ces chiffres. Aujourd'hui, un enfant sur 3 qui naît en France a au moins un parent qui est né à l'étranger. C'est même 1 enfant sur 2 dans ma région, l'Île-de-France. Donc ça nous impose cette réalité que nous sommes un pays qui est un pays qui est ouvert au monde et qui accueille le monde et qui... Ça nous impose de... repenser complètement notre politique d'intégration. Nous avons dans le Code civil, vous
on
savez...
On en a une ?
Alors justement, c'est un impensé total de la politique du gouvernement actuel. Ce mot d'intégration n'est plus jamais prononcé, encore moins celui du Code civil. Le Code civil, vous le savez, depuis 2 siècles, dit qu'un citoyen français doit être s'assimiler.
Ce n'est pas un mot tabou pour vous, l'assimilation.
C'est un mot qui figure dans le Code civil depuis 2 siècles comme une obligation. Non, mais c'est une obligation pour chaque citoyen français. Alors, si on veut changer le Code napoléonien, il faut le dire. Si on veut changer le Code civil, il faut le dire.
Mais justement, sur ce point, vous avez parlé de francisation des immigrés. Ça veut dire quoi concrètement ?
Non, j'ai repris la stratégie québécoise. J'ai dit que les Québécois qui n'avaient pas.
Nous avons un bon connaisseur ici.
Voilà. Que les Québécois qui, eux, n'avaient pas notre mémoire coloniale et donc n'avaient pas. Ces mémoires blessées des colonies osaient parler de francisation, mais c'est logique parce que au Québec on est minoritaire, donc on se bat pour défendre ces minorités.
Mais chez nous ça voudrait dire quoi, francisation des immigrants?
Alors d'abord ils sont français, ceux dont nous parlons en ce moment sont français, et c'est là que il faut le dire, et c'est là que je suis en désaccord radical avec le Front National. Nous avons aujourd'hui des enfants de France qui doivent apprendre à aimer leur pays et qui doivent grandir en se disant que ce pays à la fois va leur donner leur chance, mais va leur donner leur chance s'ils acceptent de respecter ses lois, ses règles et les règles du jeu.
C'est beau comme discours, mais
ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation, madame. Ça s'appelle l'éducation, madame Mabrouk, et c'est là aussi un sursaut national qu'il va falloir faire en matière éducative dans notre pays. Un sursaut national parce que le niveau baisse, parce que nous n'arrivons plus à recruter d'enseignants et parce que tout ça part du manque de discipline dans les classes. Alors vous voyez, quand on dit remettre de l'ordre, c'est remettre de l'ordre, évidemment, dans notre politique migratoire pour qu'on respecte nos lois, mais c'est remettre de l'ordre aussi dans la façon dont nous élevons nos enfants et dans la façon dont nous allons leur transmettre et nos savoirs et nos valeurs.
Ça c'est une réponse globale, mais franciser les immigrés concrètement, ça signifie quoi ?
Alors, typiquement, vous arrivez en France, vous devez parler français, j'en parlais tout à l'heure. Nos voisins allemands, qui sont aussi démocrates que nous, imposent pour chaque délivrance de titre de séjour un examen d'allemand après 600 heures de cours. Et si vous ratez l'examen d'allemand, vous n'avez pas le titre de séjour.
Mais ça existe, pour acquérir la nationalité française, il faut un test. J'en sais quelque chose.
La nationalité française, mais c'est bien après. Mm-hmm. Là, je vous parle d'un titre de séjour.
Vous venez demander un examen en
France, vous venez au titre du regroupement familial, vous devez parler français. Parce que si vous ne parlez pas notre langue, comment est-ce que vous allez réussir à vous intégrer ? Et pire encore, comment vos enfants vont-ils réussir à l'école si leurs parents eux-mêmes ne parlent pas notre langue ? Donc vous voyez bien que tout ça se tient et que c'est une question de fierté française. C'est les Québécois qui, eux, sont fiers de leur langue française, eux, ils l'enseignent, eux, ils obligent à le parler parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on crée une nation, que l'on cimente un peuple.
On n'est pas fiers, nous, de la langue française ?
Pas suffisamment, puisque aujourd'hui, on n'a que 100 heures de cours et qu'on ne sanctionne pas du tout. On sanctionne juste. Il faut garantir qu'on a été présent au cours. Présent au cours, ça ne veut pas dire qu'on réussit l'examen. Vous savez bien que la langue française est une langue difficile.
Mathieu, permettez-moi une question. Alors, vous évoquez le rôle essentiel de l'éducation.
Il n'y a pas que le français. Il y a les valeurs de la République aussi.
L'intégration, l'assimilation, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup de choses. Mais vous évoquez le rôle de l'école. C'est très bien. Auparavant, il y avait d'autres institutions d'assimilation. Il y avait l'armée notamment. Mais aujourd'hui, on transfère tout à l'école. Mais est-ce que quand on est dans des situations, comme évoqué dans l'étude de France Stratégie, de concentration démographique de population d'origine étrangère, est-ce que l'école, malgré des rotomontades républicaines, malgré une volonté très forte d'intégrer, d'assimiler, de transmettre les valeurs républicaines, le français, est-ce que les concentrations démographiques ne font pas en sorte que ça devient pratiquement impossible ?
Vous avez totalement raison. Ça fait des années que j'alerte. J'en ai parlé au président de la République à plusieurs reprises.
Vous avez été ministre à plusieurs.
Sur les ghettos urbains. Oui, enfin, il y a 11 ans. Hein. Et j'étais en charge de l'autonomie des universités. J'ai tenu 9 mois face à la rue et face aux étudiants pour faire une réforme qu'on attendait depuis mai 68. Alors, pardon de vous dire que, effectivement, j'ai fait mon boulot quand j'étais ministre. Et ensuite, j'ai été ministre du budget face à la crise des dettes souveraines. Et là aussi, j'ai fait mon boulot qui était de baisser les dépenses de l'État. Et on a, pour la première fois, dépensé moins en 2011 qu'en 2010. C'est la seule fois. Non, mais on me renvoie toujours à mon bilan. J'ai été ministre, oui. Et bien, quand j'étais ministre, j'ai fait le boulot. Et des boulots qui n'étaient pas faciles. Maintenant, revenons à l'histoire des ghettos. Ça fait des années, et je le fais dans ma région, ça fait des années que je plaide pour un plafond anti-ghetto et pour un grand plan à la danoise de destruction des ghettos urbains. Nous avons des grands ensembles, et France Stratégie le décrit très bien dans sa cartographie. Nous avons des villes dans lesquelles il y a plus de 50, 60, 70% de logements très sociaux. Et comme ces logements très sociaux sont donnés aux personnes les plus pauvres, évidemment, elles concentrent la misère et elles concentrent les problèmes d'intégration. Donc si on veut résoudre ces problèmes et faire une véritable politique d'intégration, il faut des quartiers de mixité sociale réels. Donc pas plus de 30% de logements très sociaux dans un quartier. Aujourd'hui en Île-de-France, la région ne finance plus un seul projet.
Vous parlez d'un basculement démographique. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, les données INSEE cartographiées par France Stratégie montrent que les enfants immigrés ou nés de parents immigrés extra-européens sont majoritaires parmi les 0-18 ans. Est-ce que vous parlez d'un basculement, d'une mutation démographique, où vous ne voulez pas utiliser ce genre de mots? Est-ce que c'est une réalité?
Moi, je suis lucide. Je regarde la situation telle qu'elle est. Dans certains territoires, effectivement, il y a une dynamique migratoire très forte qui aujourd'hui s'installe. Mais ce sont des Français aujourd'hui. Donc le sujet, c'est comment on refait nation. Comment on refait nation avec ces Français? Et je peux vous dire que dans les quartiers populaires, il y a des Français de toutes origines qui aiment la France et qui veulent réussir dans notre pays. Et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer. Moi, ce qui me fait peur, et c'est très bien dénoncé dans certains livres que j'ai lus cet été, ce qui me fait peur, c'est que non seulement, effectivement, il y a des Français de toutes origines, mais souvent, ils se regroupent en communautés liées à leur identité d'origine. Et donc, au lieu de faire nation, c'est-à-dire de se rassembler en étant 100%, voilà, ça s'appelle le communautarisme. Et ce communautarisme est en train de pulvériser la nation façon puzzle. Et ne pas entendre dans la bouche du président de la République le mot intégration, ne pas entendre dans la bouche du président de la République un vrai plan banlieue anti-ghetto qui détruirait ces grands ensembles, comme ça se fait dans les pays du Nord, comme ça se fait aussi en Allemagne. Moi, ça m'effraie pour l'avenir de la France. Et c'est pour ça que je veux relever le banc. C'est pour ça que je suis candidate à la présidentielle.
Bien sûr. Il y a un mot que vous entendez dans la bouche d'Emmanuel Macron régulièrement. Il l'a rappelé encore hier en Irak, la lutte contre l'islamisme. Le président a réaffirmé, évidemment, et on le sait tous, que le combat contre l'islamisme n'est pas terminé. Pourtant, vous lui envoyez des flèches acérées. Vous dénoncez un aveuglement, quand même, sur une situation aussi grave. Vous pensez que le président de la République française, malgré tout le bilan qu'on a payé dans des attentats tragiques, il est inconscient de cette
menace? Non, je crois qu'il y a eu une prise de conscience tardive. Et je l'ai dit, c'est le discours des mureaux. C'est le discours des mureaux. Mais avant ce discours des mureaux, il y a eu 3 ans de présidence. Il y a eu 3 ans de présidence où j'ai entendu cette phrase. Ce n'est pas deux mâles blancs qui vont régler les problèmes de la banlieue. Vous vous souvenez de cette phrase d'Emmanuel Macron à Jean-Louis Borloo qui lui apportait un plan banlieue? Jean-Louis Borloo était venu à la région Île-de-France justement pour voir quels étaient nos dispositifs, notre charte de la laïcité que nous avons été les premiers à mettre en œuvre. Cette charte de la laïcité, c'est quoi? C'est interdire qu'il y ait 1 euro d'argent public pour une association qui ne respecte pas les valeurs de la République. L'État est aussi venu voir ce que nous faisions en Île-de-France sur les lanceurs d'alerte dans le mouvement sportif. Parce qu'au lendemain des attentats du Bataclan, quand j'ai été élue présidente de région, eh bien, il y avait de l'infiltration et du prosélytisme islamiste dans les clubs sportifs. Et nous avons, avec le mouvement sportif, créé un réseau de lanceurs d'alerte. Nous avons fait 40 signalements.
On va continuer à en parler. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui une loi contre le séparatisme, peut-être que vous jugez incomplète, mais avec beaucoup quand même d'éléments. Vous nous direz aussi quelles sont vos propositions. Vous, présidente en 2022, Valérie Pécresse, quelles mesures fortes par rapport à ce combat contre l'islamisme? Vos propositions économiques, elles font beaucoup parler. On va vous faire réagir. Et puis, bien évidemment, le duel qui s'intensifie à droite. Alors, cette primaire, est-ce qu'elle a un intérêt avec le forfait de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau? Restez avec nous, on en parle tous ensemble dans quelques instants.
10 10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et merci à vous d'être avec nous en direct à la fois sur Europe 1 et CNews, le grand rendez-vous, en partenariat évidemment avec Les Échos. C'est tous les dimanches, 10h, 11h. Notre invitée, Valérie Pécresse, interrogée juste avant la pause sur le combat contre l'islamisme. Une proposition. Xavier Bertrand, au micro d'Europe 1, en début de semaine, veut s'attaquer à un courant de pensée, à une idéologie en amont contre le salafisme. Il propose d'interdire le salafisme. Est-ce que c'est faisable et applicable selon vous?
D'abord, Le combat contre l'islamisme va bien au-delà. D'abord, ce n'est pas un combat que contre l'islamisme. C'est un combat contre l'islamisme et contre l'islam politique. L'islam politique, c'est un islam qui ne reconnaît pas la loi française parce que pour lui, c'est la loi de l'islam qui doit s'appliquer partout dans le monde. Donc, islamisme et islam politique veulent combattre la République. Donc, il faut les combattre tous les deux avec la même intransigeance, la même fermeté. Alors, il y a évidemment tous les prédicateurs qui dérapent sur les valeurs de la République, qui appellent à la haine de la France, qui doivent être immédiatement suspendus. Toutes les mosquées dans lesquelles des prêches seraient prononcés, qui ne seraient pas conformes à nos valeurs, devraient être fermées. Mais ça va beaucoup plus loin que le salafisme. Ça peut concerner aussi, vous savez qu'il y a des mouvements qui ont refusé de signer la charte de l'islam, des imams de France. Vous avez le Miligorus, vous avez les Tabliques. Alors, il faut surveiller tous ces courants. Il faut surveiller aussi les frères musulmans. Les frères musulmans ont signé la charte. Ils ont signé la charte, mais ça ne veut pas dire que demain ils ne l'enfreindront pas.
On espère qu'ils soient surveillés. Mais est-ce que vous pouvez interdire une idéologie, un courant de pensée en France comme le salafisme?
Je ne crois pas qu'on puisse interdire un courant, et je crois surtout que ce courant n'est pas le seul qui prêche un islam radical en France. Je pense en revanche que ce qu'on peut faire, c'est effectivement fermer toute mosquée dans laquelle un prédicateur prononcerait des mots qui sont contraires aux valeurs de la République, et ses prêches, et ce prêcheur, ce prédicateur, s'il est étranger, évidemment, il faut l'expulser en urgence pour menace à l'ordre public.
Oui, le gouvernement le fait.
Le gouvernement a dit qu'il allait le faire, il a commencé à le faire, je lui en donne acte, mais aujourd'hui, vous le savez, nous avons encore 8000 personnes en France qui sont fichées pour radicalisation islamiste. Et face à ces personnes, je pense que la proposition de François Fillon de 2017 est toujours totalement pertinente.
C'est-à-dire
prendre le délit d'intelligence avec l'ennemi qui était dans notre code pénal, ce délit d'intelligence pour l'ennemi, l'appliquer à des personnes qui sont suspectées de sympathie avec des mouvements terroristes et de collusion avec des mouvements terroristes, par exemple pour consultation habituelle de sites djihadistes, et pouvoir les incriminer, les déférer devant la justice avant qu'elle commette un attentat.
Un délit d'intelligence avec l'ennemi. Une proposition forte,
François Fillon de 2017, qui permettrait de préventivement juger des personnes radicalisées et pas seulement de les mettre sous surveillance.
Vous entendez tous les cris d'offray après ce que vous avez dit?
Non.
De manière préventive, en amont?
Non, parce qu'ils auront commis un délit. Ils ont commis un délit, celui de consulter des sites djihadistes, celui d'intelligence avec des djihadistes, de dialoguer et de rencontrer en permanence avec des djihadistes,
ce qui permettrait
de les faire condamner. Ils n'ont pas commis d'attentat sur le sol, mais ils ont commis des actes qui mettent en danger l'ordre public français.
Alors, j'aimerais vous soumettre une formule utilisée par Xavier Bertrand et savoir ce que vous en pensez. Xavier Bertrand dit, que votre grand rival à droite, l'islamisme radical est un danger mortel pour notre civilisation. Reprenez-vous cette distinction entre islamisme radical et islamisme que l'on suppose donc modéré ou peut-être centriste, qu'en sais-je? Pour vous, est-ce que c'est l'islamisme le danger pour notre civilisation ou l'islamisme radical?
Ce que je ne confonds pas et ce que je ne confondrai jamais, c'est les musulmans et les islamistes. Les musulmans et les islamistes, je ne les confondrai jamais.
Nous sommes tous d'accord. Clarification.
Au Front National,
qui dit musulmans et islamistes.
Nous avons un certain nombre de sympathisants du Front National qui et on l'a vu pendant les élections régionales à longueur de réseaux sociaux, confondent l'islam et l'islamisme. Aujourd'hui, il y a une religion qui s'appelle l'islam, qui doit respecter les lois de la République, et il y a des islamistes qui la mettent en danger. Il n'y a pas un islamisme modéré, un islamisme radical, il y a un islamisme tout court.
D'accord.
Alors Valérie Pécresse, sur un tout autre sujet, on a vu que vous vous donnez pour objectif d'augmenter les salaires nets, vous l'avez dit aux Parisiens, de 10% en France par une baisse des cotisations sociales qui serait financée par des économies sur d'autres dépenses. D'abord, De quelles économies parlez-vous précisément? Parce que baisser les cotisations sociales, ça se chiffre en milliards, dizaines de milliards d'euros.
Absolument, Nicolas Barré. Mais peut-être avant, prendre un petit peu de hauteur. Quelle est la situation économique de la France? Nous avons malheureusement...
Selon le gouvernement.
Nous avons malheureusement connu un choc Covid beaucoup plus fort que celui des autres pays voisins, puisque notre PIB, notre richesse, a décru de 7,9% l'année dernière. C'était seulement moins 5% en Allemagne. Donc nous avons eu un choc Covid extrêmement puissant, peut-être parce que nous avons confiné davantage, peut-être parce que nous avons fermé davantage d'usines. Donc nous avons eu un choc sur l'économie française très puissant, qui a été compensé par le « quoi qu'il en coûte ». Là, aujourd'hui, on peut se réjouir, parce qu'effectivement, il y a un très puissant rebond de l'économie française. Oui, mais enfin, c'est un rattrapage. On n'en est pas encore. On a fait moins 7,9, plus 6%. Vous voyez bien qu'on n'a pas encore
vous
retrouvé...
Vous avez vu cette semaine que le patronat se félicite des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc
absolument, mais bien sûr, il fallait amortir le choc. Mais aujourd'hui, nous sommes avec une croissance qui redémarre. Quel est le problème? Quel est le problème de la France? Quel est le problème de, globalement, toute l'Europe? C'est la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus, les entreprises n'arrivent plus à recruter. Et elles n'arrivent plus à recruter parce qu'il y a eu des mécanismes aussi de chômage partiel très favorables qui ont été mis en place. Alors le sujet aujourd'hui, il est simple, et c'est un défi pour toutes les entreprises. Il faut que les salaires payent plus que l'assistance. Il faut que le travail paye. Et il faut que le travail paye plus que l'assistance plus l'économie souterraine. Oui, donc ça suppose de revaloriser les salaires nets. J'ai pas dit les salaires bruts, parce que tout de suite,
on voit bien
que les entreprises... Alors, moi, ce que je propose qu'on fasse une grande conférence salariale avec toutes les entreprises et les partenaires sociaux, et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire en France pour qu'il n'y ait plus cette différence aussi importante entre le salaire net et le salaire brut. Alors ça suppose effectivement de repenser le financement de notre politique sociale.
Oui, mais du coup, ce que vous proposez,
c'est... De pouvoir étatiser un certain nombre, peut-être, de prestations sociales.
Mais du coup, ce que vous proposez, c'est que l'État finance cette hausse des salaires, en quelque sorte, puisque
alors, je propose qu'on en discute avec le patronat, puisque j'ai entendu... J'ai entendu le patron du MEDEF cette semaine, dire que oui, il allait falloir augmenter les salaires. Donc on peut aussi travailler avec les entreprises pour voir s'il y a un donnant-donnant à faire avec elles. Mais ce que je crois, si je le crois depuis toujours, c'est que les salaires nets ne sont pas assez élevés par rapport aux revenus d'assistance. Et que donc il va falloir trouver un moyen que les cotisations sociales qui pèsent sur le travail... que les cotisations qui pèsent sur le travail puissent être financées autrement.
Mais comment vous faites pour des salariés qui sont au SMIC? Vous savez très bien qu'il y a déjà pratiquement plus de cotisations sociales au niveau du SMIC. Donc vous dites, comment on augmente les salaires nets dans ces conditions?
Il y a encore 33% de cotisations patronales et salariales au niveau du SMIC. Le SMIC net est à 1230 euros. Le SMIC brut chargé doit être à 1624 euros. Donc il y a encore 30% de charges. Donc il faut qu'on en discute. Il y a aussi... quelque chose d'un peu ubuesque, c'est que aujourd'hui, vous payez des impôts, tous ici, pour que l'État puisse reverser ce qu'on appelle la prime d'activité, c'est-à-dire un complément de salaire aux personnes qui ont des petits salaires pour qu'à la fin, elles aient un revenu décent pour vivre.
Oui, c'est 11 milliards par an.
Exactement. Donc, tous, et ça coûte de l'argent, puisque c'est les caisses d'allocation familiale, donc des fonctionnaires, qui vont opérer ce reversement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des économies dans tout ça à faire? Est-ce qu'on n'a pas tout à remettre à plat? Et est-ce que finalement, la dignité d'une personne, c'est pas de vivre de ses revenus de travail plutôt que d'une prime d'activité?
Dimanche à l'ancienne ministre du budget. Combien va coûter une telle mesure alors qu'en même temps, votre crédibilité repose sur ce que vous dites, le sérieux
alors,
des finances
je vous publiques. Je vous réponds. Pour augmenter de 10% les salaires nets pour, mettons, les Français qui gagnent au-dessus de jusqu'à 2,5 fois le SMIC, 2,5 SMIC, comme on dit, eh bien, ça coûterait 25 milliards d'euros. Mais 25 milliards d'euros...
Est-ce que c'est le moment d'alourdir les dépenses publiques au moment où on sort justement d'une période où on a dépensé à tout va?
Mais il n'est pas question pour moi d'alourdir les dépenses publiques. D'ailleurs, il y a un certain nombre de dépenses publiques que je ne ferai pas. Typiquement, est-ce que c'est le moment aujourd'hui, Monsieur Barré, de faire un RSA jeune? Est-ce que c'est le moment de mettre nos jeunes dans un dispositif d'assistanat, alors même qu'on cherche à employer des jeunes partout dans l'économie?
Vos propositions.
Alors, mes propositions, ce sera évidemment de faire des économies massive sur les dépenses de l'État. Massive aussi où mais si.
Mais ça nous. Allez-y, pardonnez-moi.
Pardon. Et sur nos dépenses sociales.
Un exemple,
la réforme des retraites. Ça fait 5 ans qu'on aurait dû la faire. Et effectivement, il faudra la faire. Et il faudra qu'on aille travailler jusqu'à 65 ans progressivement.
Réforme des retraites. Les Espagnols passent à
67. Oui, bah, écoutez, déjà, si on arrivait à convaincre les Français de travailler 65, mais ça a une contrepartie. C'est que pour les carrières longues, pour ceux qui ont cotisé toute leur vie, le jour où on travaillera jusqu'à 65 ans, il faut qu'ils aient une retraite au moins égale, là aussi, au SMIC net. Mais, donc, la réforme des retraites, ça fera faire beaucoup d'économies. On aurait dû la faire depuis 5 ans. La réforme de l'assurance chômage, elle est toujours pas faite. Elle est toujours pas en vigueur.
Elle est en train d'être mise en œuvre.
Et oui, il faudra la faire. Et il faudra peut-être encore la compléter par un dispositif qui permettrait de revenir au travail beaucoup plus rapidement.
Permettez-moi une petite question toute simple.
La décentralisation.
J'entends la liste des mesures, mais il y a une formule que vous avez évoquée tout récemment qui m'a frappé. Vous êtes présenté en prenant une double identité pour vous présenter. Vous êtes 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher. Alors, je suis curieux, quelle est cette part thatchérienne en vous? Quel est ce tiers thatchérien en vous?
Alors, c'était sur la méthode. C'était sur la méthode de gouvernement. 2/3 concertation, Merkel. D'accord. 1/3 fermeté, Thatcher. Pourquoi j'ai pris cet exemple? J'ai pris cet exemple aussi pour dire, parce qu'en France, on est quand même dans un pays où on a du mal à concevoir le leadership au féminin, et où à chaque fois qu'on parle des femmes, les qualificatifs s'enchaînent pour expliquer que nous n'avons pas d'autorité. Donc j'ai pris ces deux exemples pour montrer.
Mais l'autorité
que,
jusqu'où?
Pour alors, montrer. Pour
l'héritage
montrer...
de Thatcher, c'est une lutte à mort contre les syndicats.
Attendez.
C'est davantage le style Thatcher.
Je ne suis ni britannique ni allemande, donc mon leadership, il est franco-français.
Vous êtes 100% française.
Je suis 100% française et je ne serai pas madame, ni madame Thatcher, ni madame Merkel, je serai Valérie Pécresse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe, et c'est les deux plus grands pays européens, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, les deux leaders qui ont eu le plus de longévité à leur tête et celles qui ont fait le plus au total de réformes, celles qui ont uni les pays, ça a été ces deux personnalités. Alors après, elles ont des bilans contrastés, elles ont des bilans contestés. Je ne partage pas le « tout le monde peut venir » de Madame Merkel au Syrien. Je ne partage pas la dureté de Madame Thatcher ni vis-à-vis...
Donc c'est des références avec beaucoup de limites, alors. Voilà. Les modèles,
non,
mais
non,
vous
mais,
en
mais
prenez
oui,
une
mais,
partie.
Bah oui, mais écoutez, c'est comme Napoléon. Il y a une partie que je prends, une partie que je ne prends pas. De Gaulle, il y a des choses que je prends, des choses que je ne prends pas. Dans chaque personne.
Et ben justement.
Mais il y a plus de choses que je prends que de choses que je ne prends
vous
pas. Parce que je peux vous dire qu'elles ont permis à leurs deux pays... rappelez-vous que la Grande-Bretagne était quand même en faillite en 79.
Bien sûr.
Et rappelez-vous aussi que Madame Merkel quitte l'Allemagne avec 60% de cote de popularité.
Vous allez nous dire ce que vous prenez aussi eh bien chez votre ancien parti, les Républicains, puisqu'aujourd'hui vous dites que bah, vous la jouez collectif avec eux. On va évidemment parler de la course à droite. Tiens, est-ce que la primaire a encore un intérêt aujourd'hui? Vous y tenez? Vous pensez même qu'elle est inéluctable? Pourquoi? À tout de suite pour en parler. Restez avec nous.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et surtout notre invité pour ce premier grand rendez-vous de rentrée, Valérie Pécresse. Nous avons évoqué différents sujets depuis le début de cette émission. Et bien sûr, vous l'avez remarqué ces derniers jours et ces dernières heures, c'est l'effervescence à droite, Valérie Pécresse. Alors, sans Laurent Wauquiez qui a déclaré forfait, sans également Bruno Retailleau, pourquoi vous n'admettez pas que l'idée de la primaire est d'ores et déjà enterrée?
Tout simplement parce que les sympathisants de la droite et du centre, et ils le disent encore ce matin, souhaitent choisir leur candidat. Et c'est légitime qu'ils le souhaitent. Donc, une sélection démocratique, ça me paraît être la façon la plus logique et juste. Et en plus, ça permet de sélectionner le candidat sur son projet. Ça permet de lui poser toutes les questions que vous m'avez posées aujourd'hui et de voir si son projet tient la route.
Sauf que Laurent...
Oui. S'il n'y a plus les têtes d'affiche.
Ah ben, moi, je considère qu'il faut jouer collectif et que tous ceux qui souhaitent représenter la droite et le centre à la présidentielle doivent se plier à cette règle du jeu collectif.
Oui, Madame Pécresse, Laurent Wauquiez n'y va pas, Bruno Retailleau non plus, Christian Jacob n'en veut pas de cette primaire, Gérard Larcher ne dit plus un mot, une grande partie des élus que vous rencontrez n'en veulent pas, ils sont dubitatifs. Est-ce qu'elle n'est pas mort-née cette primaire malgré votre volonté de la tenir et on comprend pourquoi?
J'ai entendu Michel Barnier se dire candidat, Éric Ciotti, Philippe Juvin. Donc il y a effectivement un certain nombre de leaders de la droite et des hommes de grand talent qui ont envie de présenter leurs idées pour la France. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi un grand parti ne souhaite pas organiser une compétition maintenant à 9 mois de l'élection présidentielle. Il vaut mieux une compétition maintenant qu'une division plus tard. Je suis candidate à l'élection présidentielle, je ne suis pas candidate
là,
à la primaire de la droite.
Monsieur Jacob, Christian Jacob, vous lui dites c'est pas possible. Là, il faut commencer à penser à l'organisation.
Je ne suis pas candidate à la primaire de la droite, je suis candidate à l'élection présidentielle. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudra à la fin qu'il n'y en ait qu'un ou une. Et que pour le déterminer, quel est le meilleur moyen que le vote? Quel est le meilleur moyen que la démocratie?
Le sondage peut-être, les sondages aussi.
Qui se sont toujours trompés. À chaque élection et encore dernièrement aux élections régionales.
Donc vous irez jusqu'au bout.
Ce que je souhaite vraiment, c'est le rassemblement.
Moi,
je
veux que tout le monde gagne.
Non, tout le monde dit la même chose.
Vous avez
parce
déjà
que moi, j'accepte les règles du jeu. J'accepte les règles du jeu. Je ne fais plus partie des Républicains. Les Républicains ont dit on fait une primaire. J'ai dit ok, on fait une primaire. S'ils ont un autre mode de sélection qu'ils le proposent, moi, je suis prête. Mais à un moment donné, il faut imaginer un processus de rassemblement. Et ce processus de rassemblement, ça ne doit pas être des sondages qui, d'ailleurs, donnent les candidats à touche-touche.
Xavier Bertrand, c'est un diviseur pour vous?
Aujourd'hui, je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique parce que ce que je veux, c'est qu'on gagne. Mais je souhaite desserrer l'étau Le Pen-Macron. Et pour le desserrer, il faut qu'un seul candidat de la droite et du centre. C'est une évidence. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent.
Donc il y aura une entente,
mais sur
une alliance
un certain nombre de sujets. On a parlé tout à l'heure des économies drastiques que je voudrais faire sur la sphère publique avec effectivement la fin des doublons, la fin des gaspillages. Ce que j'ai fait à ma région Île-de-France, où j'ai fait 2 milliards d'euros d'économies en 5 ans. Ce que j'ai fait, ces économies, c'est très dur de les faire d'ailleurs. Emmanuel Macron ne les a pas fait.
Sur ce sujet,
aujourd'hui, je n'entends pas la droite parler d'intégration.
Sur ce sujet des économies, Valérie Pécresse, votre directeur de campagne, Patrick Stefanini, reprend cette idée de débureaucratisation. Il dit que c'est au cœur de votre programme. Alors François Fillon voulait débureaucratiser en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires. Vous reprenez cette idée?
Oui, mais en commençant,
500 000.
Pas 500 000 fonctionnaires, le chiffre n'est pas encore, on n'a pas encore bouclé le projet, donc il y aura des suppressions de postes dans la fonction publique.
À un niveau comme celui-ci ?
Il y aura des suppressions de postes dans la fonction publique dans mon projet, mais ça partira de quoi ? Ça partira d'un premier mouvement, comme les Suédois, de dénormage. Alors ce mot est un peu barbare, le dénormage c'est quoi ? Supprimer toutes les lois qui ne servent à rien, supprimer... divisé par 3, le code du travail, le code de l'urbanisme, tous ces codes, toutes ces normes. Nous avons des normes supplémentaires par rapport à la moyenne européenne dans tous les domaines. Demandez aux agriculteurs, demandez aux industriels, demandez à ceux qui portent des projets. Le dénormage. Je propose de créer un comité de la hache qui supprimera toutes ces normes. Et si vous supprimez toutes ces normes, vous supprimerez évidemment les fonctionnaires qui les font appliquer.
Donc, on a eu ces tentatives
Mais moi, je l'ai fait à ma région. Dans ma région, j'ai supprimé à peu près 12% des fonctionnaires du ciel, ceux qui étaient dans les bureaux,
à l'idée de la primaire.
Pas ceux qui étaient sur le terrain.
L'idée
j'ai augmenté
de la primaire,
les agents des
s'il vous plaît.
Donc on peut augmenter les postes sur le terrain dans la fonction publique, les policiers, les infirmières, les soignants, et on peut supprimer ceux qui administrent. Regardez les budgets des hôpitaux français, vous vous apercevrez qu'on dépense 30% de plus en administration des hôpitaux.
Vous ne voulez pas parler de la primaire, décidément.
Si, je veux en parler, mais alors, ça intéresse moins les Français que le fonctionnement des hôpitaux.
C'était ma question. Est-ce qu'elle va intéresser les Français, cette primaire?
Il y a une partie centrale dans votre discours pour la primaire, justement, qui n'est pas qu'économique. Vous avez utilisé une formule qui m'a frappé. Vous avez dit qu'il faut retrouver la fierté française. Alors, j'ai une question double. D'abord et avant tout, à quel moment l'avez-vous perdu? À quel moment les Français ont-ils perdu la fierté française? Et deuxièmement, pourquoi?
Ce que je n'accepte pas, c'est l'autodénigrement. C'est qu'on dise toujours que ça ne va pas, qu'on n'est pas bien, etc. On ne peut pas toujours se plaindre. On est un pays absolument formidable, il y a un génie français. Mais une partie de ce génie est entravée justement par toutes ces normes tatillonnes, par cette bureaucratie. Et le fait qu'on mette 18 mois, 2 ans, 3 ans avant de réaliser un projet, eh bien, ça mine le moral. Autre sujet, la transmission de nos valeurs, la transmission de notre histoire.
Mais ça ne se décrète pas la fierté. Comment vous l'insufflez aujourd'hui dans un pays?
D'abord en remettant de l'ordre. En remettant de l'ordre et en faisant appliquer nos lois. Un pays qui ne fait pas appliquer ses lois, on a parlé d'immigration, mais on n'a pas parlé de la sécurité. On n'a pas parlé de cette première des libertés des Français qui est de se sentir en sécurité dans leur propre pays. Donc on a à remettre de l'ordre et puis on doit redonner de l'espoir. Si on donne l'espoir d'une éducation qui fonctionne, et c'est pour ça que j'appelle un sursaut national pour l'école. Eh bien, à ce moment-là, on rendra la fierté.
Permettez-moi juste un mot simplement. 2007, Max Gallo, fier d'être français, soutient Nicolas Sarkozy. Il nous dit à ce moment-là, Nicolas Sarkozy reprend ses propos, il faut retrouver la fierté d'être français. Donc pour peu que j'en sache, 2007, la fierté française était déjà perdue. Est-elle revenue entre-temps, disparue, retrouvée? J'essaie de comprendre.
Bah écoutez, c'est clair que nous avons besoin aujourd'hui de retrouver un pays qui a confiance en lui, confiance en son avenir, confiance en ses valeurs et qui est fier de son histoire. Quand je vois des gens qui déboulonnent les statues, quand je vois des gens qui s'excusent qu'on ne fête pas le bicentenaire de Napoléon, qui est admiré partout dans le monde. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des heures sombres, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une pensée critique. Bien sûr, il faut une pensée critique, bien sûr, il y a des heures sombres. Mais on ne va pas s'excuser d'avoir eu des
héros.
Alors,
qui est le mieux placé pour porter ou incarner cette fierté française? Comment vous expliquer par exemple, Valérie Pécresse, l'engouement médiatique et politique autour de la possible, probable, certains disent, candidature d'Éric Zemmour. Voilà, c'est que, donc...
Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que la politique, c'est faire. Voilà. Ça fait 20 ans que je fais. Ça fait 20 ans que je me bats jour après jour pour améliorer la vie des Français dans ma région.
Et pourquoi il ne le ferait pas? Attendez qu'il soit en politique, Éric Zemmour, avant d'intenter des procès d'intention.
Oui, mais vous voyez, on est aujourd'hui les champions du monde du paiement des impôts. Et je pense qu'une bonne partie de la dynamique de la France économique viendra du fait qu'on arrive à réduire nos dépenses publiques et à les redéployer sur nos
valeurs.
Je vous explique. Ah, attendez. Je vous explique pourquoi je pense qu'un polémiste n'est pas un politique. Je pense qu'un politique, c'est quelqu'un qui a la capacité de gérer, de commander, de diriger des équipes, qui a la capacité de réformer. Il faut réformer puissamment. Ça fait 17 ans que toutes les réformes...
Si tous les politiques avaient cette capacité de réformer, on le saurait. Hein.
Non, mais bien sûr, ils ne l'ont pas eu. C'est ça qui explique l'engouement de la candidature.
Voilà,
l'engouement de la candidature vient de l'impuissance supposée des politiques depuis des années. Il faut mettre fin à cette impuissance, et ça, c'est mon projet.
Ce serait une bonne chose qu'ils participent à la primaire?
Alors, ce qui est clair, c'est que pour participer à la primaire de la droite et du centre, il faut partager les valeurs de la droite et du centre.
Ouais.
Et dans les valeurs de la droite et du centre, Monsieur Barré, dans les valeurs de la droite et du centre, il y en a une qui est centrale pour moi. C'est le refus absolu de toute alliance avec l'extrême droite. Or, vous le savez, Éric Zemmour prône le rassemblement de tout ce qu'il appelle toutes les droites, c'est-à-dire de l'extrême droite avec la droite.
Mais c'est quoi l'extrême droite?
C'est contraire à mes valeurs. Moi, j'ai toujours mis une cloison étanche entre moi, l'extrême droite, et évidemment l'extrême gauche, que je considère qu'on doit traiter avec autant de dureté que l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, elle aussi, elle veut détruire nos institutions.
Qui est l'extrême droite en France?
Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen.
C'est l'extrême droite pour vous?
Oui.
Mais vous me regardez avec des graves yeux.
Pas pour vous, Madame Mabrouk. Mais pas pour vous, Madame Mabrouk.
Alors là, ici, je pose des questions, permettez-moi.
J'ai le droit aussi de vous en poser, pardon, mais la parole est libre ici.
Mais vous avez répondu, c'est Marine Le Pen. Dernière question, est-ce que vous êtes arrivée en voiture ici, Valérie Pécresse?
Absolument, en voiture propre.
Ah, mais ce n'était pas une question sur l'écologie, c'était surtout sur la vitesse. Dès demain, nous serons contraints, en tous les cas pour les Parisiens, automobilistes et parisiennes, à rouler à 30 km/h. Est-ce que vous approuvez la décision de Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo?
Déjà, si on arrivait à rouler à 30 à l'heure dans Paris, on serait heureux.
Eh bien, c'est dit. Merci Valérie Pécresse pour ce premier rendez-vous de rentrée en direct sur Europe 1 et CNews. Merci à Nicolas Barré et merci à Mathieu Bock-Côté, nouvelle recrue venue du Québec qui nous accompagne désormais sur CNews et évidemment sur Europe 1. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, puis moi, dès demain à 8h15 pour l'interview politique sur Europe 1 et bien sûr à midi sur CNews. Merci encore et à très bientôt sur nos antennes.
Grand rendez-vous européen
avec Les Échos et CNews.